Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis se font face à notre affiche Rigoletto de Verdi, dirigée par Nicolas Luizzotti, mise en scène par Klaus Gutt. C'est une nouvelle production de l'Opéra de Paris. Et nous rendrons hommage au chef d'orchestre récemment disparu, Nicolas Harnoncourt, à l'occasion aussi de la sortie d'un disque, et nous parlerons de quelques autres également. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Cadeau à gagner ce soir, des places de cinéma pour le film merveilleux et terrible. Voici Le Temps des Assassins de Julien Duvivier, en version restaurée actuellement au cinéma. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'écrivain et critique Pierre Jourde, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle production de Rigoletto de Verdi à l'Opéra de Paris, dans une mise en scène de Klaus Gutt, dirigée, en tout cas jusqu'à ces derniers jours, par Nicolas Luizzotti. À partir de ce soir, hein, ça change, je le redirai, c'est Pier Giorgio Morandi qui prend la baguette. Pour mémoire, Rigoletto livré de Francesco Maria Piave et d'après Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Opéra créé en 1851 au Théâtre de la Fenice à Venise. Il s'agit du 17e opéra du compositeur qui forme avec Le Trouvère et la Traviata la trilogie populaire de Verdi. L'action se situe à Mantoue, dans ses environs, au XVIe siècle. Rigoletto est le bouffon du duc de Mantoue, Don Juan local. Le bouffon protège sa fille, Gilda, en la tenant recluse, d'autant plus ce que s'abat sur lui la malédiction du comte Monterone. Mais ce qui devait arriver, arriva. Gilda est séduite par le duc de Mantoue, puis enlevée par les courtisans qui l'amènent jusqu'à la chambre de leur maître. Rigoletto va bien sûr chercher à se venger du duc, et l'on sait que ce genre de plan finit rarement bien. Et voilà pour ce premier extrait tel que l'Opéra de Paris nous l'a fourni, et ça me permet d'abord de dire, de corriger une inexactitude dans mon lancement, puisque Nicolas Luizzotti est bien la baguette de cette nouvelle production, et Pier Giorgio Morandi ne le remplacera que le 14 mai, pas 14 avril, hein, ça se joue jusqu'au 30, il y a 17 représentations, donc il y a encore du temps. Il faut dire que je n'ai pas, moi, encore vu cette production, donc je ne savais plus quand est-ce qu'elle avait commencé, mais c'est tout récent, je crois que c'était lundi soir, Emmanuel Giuliani ?
Lundi.
Voilà, lundi soir. Dernier, donc oui. Bon, voilà, là, les agendas sont étant ce qu'ils sont, je perds la tête. Bon, votre camarade Emmanuel Dupuis disait, pendant que nous écoutions cet extrait, ce qu'on écoute, c'est ce qu'il y a de mieux dans la soirée. Bon, on va peut-être développer ce propos, mais musicalement, en tout cas, pour parler de Luizzotti, justement, pour le coup, il y a une énergie, il me semble qu'on est bien dans Verdi, là, quand même.
Je
me fie à cet extrait, pour
il
l'heure.
Il y a une variété, pour pas dire un éclectisme, voire de tempi extrêmement soutenu du début à la fin, avec des moments terriblement étirés. Le grand air de Gilda, on a l'impression qu'il dure trois quarts d'heure. D'autres moments, au contraire, très précipités au risque d'être brouillon. Ah. Et c'est vrai, vous avez dit, ça lance.
Ça envoie,
mais ça retombe pas mal au pied. Ah. Je trouve qu'on l'entendait un petit peu là dans la première, cette grande scène, la Cortigiani de Rigoletto, qui commence dans la véhémence, et puis la plainte, et puis la supplication. Et notamment ces traits qui sont sous les parties les plus plaintives, les traits d'orchestre, à chaque fois, on a l'impression qu'il faut que ça monte. Et là, pouf, ça retombe à chaque fois. Voilà, c'est une direction qui est très morcelée, parfois brouillonne, pas tout à fait en place. Il faut dire qu'il leur a manqué une représentation, puisqu'il y a eu la grève lors de la pré-première pour le jeune public, bon, enfin, le public plus jeune, et ça a sans doute manqué. Mais je trouve que ça confond beaucoup vitesse, urgence et précipitation, et qu'il n'y a pas notamment ces grandes lignes, ces grands appels d'air, ces grandes dilatations dont on a besoin, et ça nuit aux chanteurs qui, notamment à Rigoletto qu'on vient d'entendre, donc à Queen qu'elle sait, qui a vraiment sans doute de très beaux moyens, mais ça lui coupe un peu les ailes, alors qu'il a sans doute de très belles ailes à déployer.
Alors, voilà pour la direction d'orchestre. Sur les chanteurs, mais alors sur la direction, Emmanuel
Oui,
Dupuis.
Sur la direction d'orchestre, je partage à peu près l'avis d'Emmanuel Giuliani. Moi, je trouve que ce qui a manqué le plus à cette vision du chef, c'est une sorte d'épine dorsale de dramatique. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, parce que justement, effectivement, il y a ce côté morcelé du discours, et puis effectivement quelque chose d'assez brouillant. On peut pas dire que l'orchestre de l'Opéra de Paris ce soir-là se soit couvert de gloire. Il y avait pas mal de décalages, de petites choses pas très jolies, pas très propres, et c'est la même chose aussi dans le chœur d'ailleurs. Donc voilà, de ce point de vue-là, je suis un petit peu resté sur ma faim. Quant à l'aspect vocal des choses, si
oui,
on peut en parler.
Enchaînons.
Donc effectivement, Queen Classley,
qu'il ne chante pas, c'est pareil. C'est pas pareil, parce que là, pour le coup, pour à peu près tous les rôles, ce sont des alternances. Hein, donc selon le soir où on y va, on aura Queen Classley ou on aura Franco Vassallo l'autre soir.
Donc Queen Classley domine très largement le plateau, parce que d'abord c'est une très grande voix de baryton, avec un côté presque gargantuesque et très, très généreux, avec de très beaux phrasés, et avec quelque chose dans la voix, comme une sorte de larmes sur la voix.
Harmoniques très, très
riches. Qui met juste ce qu'il faut, sans être non plus outrancier ou exagéré dans l'expression. Donc c'est vraiment lui qui domine. Parce qu'autour, on a entendu des choses vraiment médiocres. Notamment dans les petits rôles. Évidemment, il y a beaucoup de petits rôles dans Rigoletto, mais qui sont parfois déterminants. Par exemple, Monterone, au début.
La malédiction. Qu'elle frappe. Hein.
Qui énonce la malédiction de Rigoletto. Là, on avait une basse qui chantait faux. Donc c'était pas très heureux. Maddalena, aussi, rôle de mezzo à la fin, mais qui est très importante parce qu'elle intervient dans certains des plus beaux ensembles de Verdi. On a eu droit à Vasilina Kazarova, qui est une ancienne gloire vocale, mais j'ai bien dit ancienne, parce que là, c'était une voix, mais carrément en ruine, totalement aphone. Enfin, j'ai éclaté de rire quand elle a commencé à chanter, parce que c'était...
Je peux en témoigner, nous étions à côté.
Voilà.
Et vous lui avez fait chut, chut,
Absolument.
Ouais. Enfin, c'est pas digne de l'Opéra de Paris, quoi, tout simplement. Parce que pour trouver une mezzo pour chanter Maddalena, je veux dire, c'est pas la peine d'aller à l'étranger. Je veux dire, on a plein à la maison, donc parmi les chanteuses françaises. Donc, je comprends pas qu'on soit allé chercher Vasselina Casaro.
Mais alors, justement, juste sur ce point-là, comment vous expliquez alors que le plateau soit pas à la hauteur? Est-ce qu'on sait ce qui se passe en cuisine pour arriver à des productions comme celle-ci avec ce...
Peut-être demander au directeur de casting de l'Opéra de Paris.
Oui, non, mais certes, mais est-ce que vous savez des choses, vous?
Non, je ne sais rien, mais je constate que c'est pas au niveau. Faire des distributions, c'est un art très particulier, et surtout dans des maisons internationales comme l'Opéra de Paris ou Covent Garden ou le Met. Je parle de Covent Garden ou le Met parce que Covent Garden ou du Met parce qu'en général là-bas les distributions sont un petit peu mieux soignées. Quand vous allez au Met, dans les petits rôles, en général, ce sont des chanteurs américains, mais qu'on sait choisir. Quand vous allez à Covent Garden, en général, ce sont des chanteurs anglais, mais que l'on sait choisir. Là, en France, à Paris, je ne sais pas pourquoi, les chanteurs français n'ont pratiquement pas le droit de citer à l'Opéra de Paris. Et on va chercher à l'étranger des artistes totalement que personne ne connaît et qui ne sont pas au niveau, tout simplement. Donc, c'est très étrange.
Même sévérité pour vous, Emmanuel Giuliani?
C'est-à-dire, ce que je me demande, je n'ai pas la réponse, mais en effet, depuis la salle, c'est si on ne se dit pas, parce qu'on avait un phénomène un peu voisin pour le Trouvert, en se disant, Opéra de Verdi, il y a les premiers rôles terriblement difficiles à chanter et où il va falloir mettre des grandes stars ou ce qu'on peut avoir comme grandes stars. On l'avait avec le Trouvert, avec les Trepko. Ouais. Là, en tous les cas, avec Olga Peretiatko, qui est quand même une des gloires montantes en Gilda.
Oui, voilà, on va mettre une gloire
confirmé, on va mettre des rôles
Irina Lungu qui chante en alternance.
Voilà,
des
chanteurs aussi, importants. Les petits rôles, c'est pas très grave, ils chantent pas très longtemps, qu'en fait c'est totalement essentiel.
C'est
totalement essentiel, notamment dans le fameux quatuor à la fin de l'ouvrage que Emmanuel évoquait. Il faut évidemment une Maddalena formidable, parce qu'autrement on n'entend que la voix aiguë de Gilda qui surplombe, et les AA notamment de Maddalena qui sont là pour mettre un élément comique et sensuel dans ce quatuor absolument tragique sont tout à fait essentiels. C'est la grande dramaturgie de Verdi. Et puis, je crains aussi qu'on se dise que l'orchestre, bon, c'est un orchestre qui soutient les voix, mais qui est un peu utilitaire, en tous les cas dans les Verdi qui ne sont pas ceux de la maturité, enfin de la grande maturité, et donc on peut prendre un peu des chefs de seconde zone. Et l'orchestre ne le travaille
peut-être pas
aussi bien qu'il le ferait dans Richard Strauss ou dans Wagner. Et c'est des erreurs monumentales, parce que ça demande une perfection absolue pour que tout le drame soit là. Et côté mise en scène, on va peut-être en parler.
Ouais,
là,
absolument.
On dit, oulala, surtout ne faisons pas de la mise en scène un peu classique, un peu littérale, parce qu'on ça va trop sentir son vieil opéra du 19e. Et là, cherchons des idées qui déménagent un peu. Le problème, idées qui déménagent, il faut qu'elles soient forte et intelligente.
Quelle idée a amené Klaus Guth?
C'était pas vraiment le cas.
Pour les déménagements, les cartons,
c'est pas oui, oui, absolument, alors, oui, c'est vrai.
Donc il y a des cartons, ça j'ai compris. Ensuite, Emmanuel Giuliani, ou Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'on voit sur ce plateau d'abord?
On va expliquer. Donc pendant le prélude, au début, on voit un comédien qui est le sosie ou le double de Rigoletto qui sera là pendant tout l'opéra, qui va rester pendant tout l'opéra.
Quelle idée originale.
Voilà. Oui.
Non, mais bon, ça peut être bien.
Ça peut être très beau.
Je suis mauvais esprit.
Bien sûr.
Donc, il est à l'avant-scène pendant le prélude. Il ouvre une boîte en carton et il en sort notamment la robe ensanglantée de Gilda qui l'étreint. Et
robe ensanglantée de la fin, on va dire ça pour
ceux
qui ne connaissent pas encore
la robe ensanglantée. Voilà, parce que Gilda à la fin est assassinée, donc voilà. Et pendant ce temps, le décor s'ouvre, qui est derrière lui, s'ouvre petit à petit, et on comprend, quand ce décor est totalement ouvert, que c'est une boîte en carton géante. Donc voilà, donc on a compris que c'est un flashback, et que on va revivre dans ce carton tout le drame qui vient de se passer. Alors cette idée pouvait paraître à peu près séduisante, mais le problème, c'est que le metteur en scène n'en fait strictement rien, parce qu'après, il ne se passe plus rien pendant tout l'opéra dans ce fameux carton. Il y a quelques vidéos qui sont là pour égayer l'affaire, mais des vidéos qui n'apportent Pas grand-chose.
Qui font un peu les chutes non utilisées de la mise en scène de la damnation de Faust. Parce qu'il y a aussi le complexe animalier, là, qu'on retrouve un chien, des pigeons.
Oui, il y a des pigeons.
On file la métaphore animalière sur toutes ces saisons de l'opéra. C'est vraiment.
Mais enfin, ça n'apporte rien.
Non, rien du tout.
Et puis, il y a des.
C'est pour distraire le public?
Oui, peut-être. Et puis, alors, il y a des pensifs de la mise en scène contemporaine. Totalement ridicule, et notamment avant d'entonner sa Donna Immobile, le duc de Mantoue siffle sa ligne de coq. On a vu ça, alors je sais pas pourquoi, bon c'est peut-être fait pour effaroucher le bourgeois, mais ça n'effarouche plus personne parce qu'on a vu ça 10 000 fois maintenant, la ligne de coq sur une scène d'opéra. Donc, et puis quand la Donna Immobile commence, on va arriver, donc la Donna Immobile, comme la plume au vent, comme chacun sait, on va arriver, six danseuses du Lido, toutes plumes dehors, et qui commencent, qui font une petite chorégraphie totalement...
D'accord, elles ont vraiment la plume au vent, donc. D'accord.
Voilà, c'est ça.
Bon. Donc, et là, vous avez eu un autre fou rire, je pense.
Non, j'étais accablé, là.
Accablé. Emmanuel Giuliani?
Oui, c'est un peu la même chose. Surtout, Rigoletto, c'est vraiment, c'est tellement horrible comme histoire.
C'est difficile à mettre en scène.
Bien
hein.
sûr, c'est
on
difficile.
On en voit rarement des bonnes.
Mais il y a un tel drame, il y a tellement cet amour paternel qui se fourvoie complètement, qui séquestre sa fille sous prétexte de la protéger.
Oui,
évidemment,
parce qu'il
ça ne la protégera
évidemment.
Pas. Il l'aime, mais qui a cette face terrible. Et justement, il faut un très grand Monterone pour comprendre que cette malédiction va complètement retourner ce personnage qui était du côté du pouvoir tout en s'en moquant, mais qui jouait avec lui et qui va se retrouver paria. Donc il faut que cette malédiction, surtout quand on sait qu'elle correspond tellement à ce qui a été si tragique dans la vie de Verdi avec la perte de sa femme, de ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est un opéra absolument bouleversant. À vrai dire, il n'y a qu'à se laisser conduire, mais il faut sans doute avoir un ego moins monumental que celui du metteur en scène, ou alors un ego monumental et un génie monumental, et comme il y a l'un et pas l'autre. Et puis, c'est vrai que cette idée du carton géant, outre qu'esthétiquement, elle n'est pas vraiment très belle, et elle est en plus agrémentée d'un rideau en velours bleu, jolie non plus. Donc, esthétiquement, c'est pas beau.
C'est pas très beau.
La direction d'acteur n'est pas très suivie. Le duc de Mantoue, il a un jeu tout à fait jeu de ténor, avec les mains sur le cœur, il s'agenouille, il a une veste en velours rouge, une perruque qui semble un peu sorti de la planète des singes. Hein, mélange de Jacques Chazot et de la planète des singes. C'est assez curieux comme coiffure. Bref, il n'est pas sexy du tout, alors que le chanteur est pas mal. Il a sans doute une voix, il faut qu'il fasse attention, parce qu'elle durera peut-être plus très très longtemps s'il la pousse comme ça. Mais c'est pas vilain comme chant, même si c'est un peu exténué.
C'est assez monochrome quand même.
Monochrome et un peu exténué vers la fin. Mais cette direction d'acteur donc est un peu comme la direction musicale, c'est-à-dire éclectique et qui retombe. Mm-hmm. Les effets retombent. Bref, c'est plutôt raté.
Bon, dernier mot, Emmanuel Dupuis.
La seule qualité moi, que j'ai vue, c'est parfois dans la direction du cœur, où effectivement, là, il y avait des choses assez travaillées, assez fines, dans la direction scénique.
Scénique, d'accord.
Oui, il y avait choses quand même assez travaillées. Donc je pense que cette production, en fait, c'est... on a fait travailler le cœur, et puis après, je pense que n'importe quel chanteur va pouvoir s'insérer dans cette production, que c'est un truc qu'on va pouvoir reprendre pendant des années et des années.
Ah ça fait rêver.
Pour les tours opérateurs. Je pense que c'est exactement ça. Parce que moi, c'était la première d'une nouvelle production à l'Opéra de Paris. Normalement, ça devrait être la fête. Ben, moi, on en est ressorti avec un sentiment de routine et d'ennui qui était, c'était pas la fête du tout, quoi.
Bon, et bien voilà pour Rigoletto Verdi à l'Opéra de Paris, Opéra Bastille, jusqu'au 30 mai. Vous avez mis aussi toutes les réserves qu'on peut avoir sur le côté musical. On peut écouter cet opéra sur France Musique. Ce sera le 28 mai à 19h.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous rendrons tout à l'heure hommage au chef d'orchestre Nicolas Harnoncourt, mort le 5 mars dernier. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, le critique et écrivain Pierre Jourde. Et avant cela encore, le maestro Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. C'est à vous, cher Antoine.
Merci Arnaud Laporte, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Après Nicolaus Hardencourt, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, et Gustave Leonhardt, pionnier dans les années 1960 de l'enregistrement de cet Everest musical, et tant d'autres, c'est au tour du chef japonais Masaaki Suzuki de sortir demain un coffret de disques regroupant l'intégrale des cantates de Bach, une aventure musicale et discographique qui lui a pris 19 ans. L'intégrale, cette idée selon laquelle il faut être complet et relativement récente dans l'histoire de l'interprétation, commente Christian Merlin dans Le Figaro, elle repose souvent sur la conviction qu'on ne maîtrise vraiment le style d'un compositeur que lorsqu'on a la vision d'ensemble sur toute sa création, un peu comme s'il fallait avoir lu tout Balzac, mais au-delà de la justification artistique, inutile de cacher qu'il existe souvent une démarche commerciale. Les intégrales, on le vend en poupe, on l'a vu avec les chiffres de vente de coffrets tout Mozart ou tout Beethoven, inespéré en des temps où le marché du disque classique traîne clairement la patte. Oui, écoutez, les 9 symphonies de Beethoven à la suite dans l'ordre chronologique permet à la fois de saisir la cohérence d'un univers et d'en mesurer l'évolution et les contrastes, mais l'intégrale n'a pas que des avantages. D'abord parce que tout ne se vaut pas dans l'œuvre d'un compositeur, ensuite parce qu'un interprète n'est pas obligé d'avoir des affinités avec toutes les pièces d'un même corpus. Furtwängler se fichait de donner l'intégrale des symphonies de Beethoven. Il n'aimait ni ne comprenait la deuxième, qu'à cela ne tienne, il ne la dirigeait pas. Disciple de Gustav Mahler, Bruno Walter ne dirigeait que les premières, deuxième, quatrième, cinquième et neuvième symphonies parce qu'elle lui parlait. À rebours, quand l'industrie du disque a commencé à raisonner en termes d'intégrale, ce ne fut pas sans effet pervers. Prenez Herbert von Karajan, cet immense chef qui exerça de son vivant une sorte de monopole sur l'enregistrement classique, accompagna, comme toujours, la nouvelle évolution et enregistra une intégrale des symphonies de Bruckner avec le Philharmonique de Berlin, à ceci près qu'en concert, Karajan ne dirigeait régulièrement que les numéros 4, 5, 7, 8 et 9. Quand on est passé en studio, au moment de mettre en boîte les numéros 1, 2, 3 et 6, chef et orchestre déchiffrés, tout Karajan et Berlin qu'ils soient, cela s'entend. L'assistant du maestro, qui était alors l'Autrichien Gustav Kuhn, a été tellement dégoûté par ce sacrifice du soin artistique au profit du projet commercial qu'il a démissionné. Autre risque, quand bien même la conviction artistique est chevillée au corps des interprètes, la constance dans la qualité n'est pas toujours facile à conserver. Quand John Eliot Gardiner réalisa sa propre intégrale des cantates de Bach sur un an à raison d'un concert par dimanche, sa ferveur et sa compétence ne souffrirent aucun relâchement, mais la qualité de ses chanteurs d'un dimanche à l'autre était en revanche fort aléatoire. L'intégrale n'est pas toujours la panacée. Et puis, tous ces disques, il faut les vendre et ce n'est pas une mince affaire. Le disque qui aurait pu apparaître comme un produit de luxe face aux offres dématérialisées a en effet perdu sa valeur, raconte Marie Savicha dans une enquête du Monde consacrée à l'économie baroque du disque de classique. Les raisons, une offre très large proposée par les plateformes de partage ou de vente en ligne, notamment Qobuz, spécialisée dans la musique classique, mais aussi une politique commerciale de valse des étiquettes menée par les distributeurs de disques physiques. Le principe, faire évoluer la valeur du CD tout au long de sa présence dans les rayons, du prix vert à la promotion de déstockage en passant par un prix fort pouvant dépasser les 20 euros, et cela en quelques semaines. Conjuguée au développement de la gratuité sur Internet, cette politique de prix erratique a posé la légitime question de la juste valeur de l'objet disque. Les clients ont fini par s'en détourner, remarque Bruno Bouteleux, le directeur de l'ADAMI. La conséquence, depuis une dizaine d'années, les revenus des maisons de disques se sont effondrés et nombre de petits labels ont disparu, avec un impact majeur pour les musiciens. Aujourd'hui, non seulement les artistes ne touchent plus d'avance sur royalty, mais ils ne reçoivent aucune rémunération si les ventes ne couvrent pas les frais engagés. Puis, ils doivent généralement investir eux-mêmes dans la production ou la post-production de leurs disques. Si les artistes se donnent tant de mal pour enregistrer des disques qui leur rapportent si peu, c'est parce que le disque permet d'accéder à la reconnaissance des médias et des professionnels, mais aussi d'ouvrir les portes des salles de concert. Un disque permet de se faire mieux connaître et d'afficher une identité forte, explique ainsi le directeur du Conservatoire de Paris, Bruno Mantovani. Mais il faut choisir un thème qui permette d'affirmer sa personnalité, comme le fait la chanteuse lyrique Sabine de Vielle dans son disque sur les héroïnes de Mozart, The Weber Sisters, ou Hélène Grimaud à travers son album récital Water. Dans la mesure où la durée de vie d'un disque dans le rayon de la FNAC n'excède pas quelques mois et où le disque n'est proposé qu'à quelques exemplaires, il appartient finalement aux musiciens d'acheter et de revendre une partie de leurs albums. Nous concevons conjointement nos concerts et nos disques pour qu'ils fonctionnent en échos, confie Louise Gaillard de l'ensemble Amaryllis. Après un spectacle, nous en vendons en moyenne une vingtaine, s'y ajoutent les ventes que nous faisons ensuite par Internet. Lucratif, pas vraiment. J'achète le disque que j'ai enregistré 16 € et à la fin de mes concerts, je le propose à 15 €. Car à 20 € les gens le trouvent très cher, explique la pianiste Rémi Masunaga. Je suis perdante financièrement, mais je considère le disque comme une façon de garder un lien avec mon public ou comme une publicité. Le disque, un tract comme les autres, sauf qu'il est payant, lui, pour l'instant.
Oui, de disques, nous parlons régulièrement, de DVD aussi, hein, c'est une autre façon, une autre valeur ajoutée. On va parler de disques dans un instant en parlant de Nicolas Arnoncourt. Vous inspire quel type de réflexion cette revue de presse, Emmanuel Giuliani ?
C'est souvent des questions qu'on se pose aussi quand on est dans la presse écrite, quand les marchés deviennent difficiles, finalement, est-ce que ça incite pas à faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait faire, puisqu'on se dit de toute façon les lois marketing marchent ou ne marchent pas. Donc ça peut à la fois être très très pessimiste et puis une porte ouverte à plus de liberté, puisque de toute manière, le combat est difficile, autant le faire avec les armes qu'on a envie d'utiliser. Je ne sais pas.
Emmanuel Dupuis.
Oui, le combat est difficile, mais paradoxalement, le nombre de nouveaux disques classiques qui paraît reste faramineux, effectivement, c'est toujours... Enfin, à diapason, on continue tous les mois à critiquer presque 150 nouveautés. Donc c'est assez, ça peut paraître paradoxal, mais ça prouve que la créativité reste là et que la qualité reste là. Après, le public n'est pas toujours au rendez-vous. Ça, c'est un autre problème.
C'est un autre problème. Et puis après, les appels sur les intégrales, on va dire qu'on préfère la qualité à la quantité toujours, et que la quantité, c'est-à-dire, ça permet. On parlait il y a deux semaines de ces énormes coffrets. Audi Menuhin, magnifiquement choisi par Bruno Monsagent, qui est le maître d'œuvre de cette édition, mais pour dire aussi que si on divise le nombre de disques par, le prix par le nombre de disques, on arrive à des coffrets qui c'est 2 ou 3 euros chaque disque. Qu'on achète 15, qu'on achète 80, c'est quand même très bon marché pour des choses de très haute qualité. Les intégrales Mozart, il y a eu ça il y a quelques années, c'était vraiment de l'opération commerciale. Oui. Ça n'a pas ça aurait un sens si c'était des très bonnes intégrales.
Oui, voilà. Alors après, tout dépend de la manière dont les choix sont faits, les choix éditoriaux, musicaux sont faits. Parfois, on peut avoir des choses effectivement très réussies, mais ça n'est pas toujours le cas. Mais bon, effectivement, ce sont souvent dans ces grosses boîtes, on retrouve des enregistrements dont les coûts sont amortis depuis très longtemps.
Bien sûr.
Aujourd'hui, fabriquer un CD, ça ne coûte rien du tout.
C'est quelques centimes. Ouais.
Donc voilà, c'est une équation économique assez rentable. Hein.
Bon, il faut utiliser le catalogue aussi. Bon, c'est ce qui se fait parfois très bien et parfois de façon plus curieuse. Dans quelques minutes, on va rendre hommage au chef d'orchestre Nicolas Arnoncourt. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, le critique et écrivain Pierre Jourde, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ?
Pierre Jourde, vous avez dit l'autre soir en parlant de cinéma que certaines images de films pouvaient comme ça directement se transfuser dans votre plume d'auteur. Est-ce que la musique peut avoir le même type d'effet ? Est-ce qu'il y a des moments pour écouter la musique ? Est-ce qu'il y a la musique tous les jours ? Est-ce qu'il y a des rituels pour vous ?
Non. Non, tous les jours, tout le temps. Et beaucoup en travaillant. Beaucoup en travaillant, ça donne le rythme. D'abord, je voudrais insister, là encore, sur quelque chose qui est pour moi essentiel, c'est l'éclectisme. Je pense qu'on peut, et surtout qu'on devrait, aimer toutes les sortes de musique, de la chanson populaire française des années 30 au rap, en passant par Brahms. Pourquoi pas une chanson de Dranem va me ravir autant qu'une bonne chanson de Françoise Hardy ou que du Beethoven. C'est pas le même usage, c'est pas la même complexité, mais ça peut être réussi, ça peut apporter quelque chose. Je suis très fier parce que mon fils aîné est saxophoniste et il a hérité de cet éclectisme. C'est-à-dire que je lui fais écouter Emerson, Lake & Palmer, par exemple. Il reconnaît la reprise de Bartok et justement ça l'intéresse qu'ils aient fait avec Bartok quelque chose d'un peu plus rock'n'roll. Voilà, ça c'est un éclectisme musical qui me semble intéressant. Et il est capable aussi d'admirer à la fois Coltrane et quand je lui fais découvrir de vieux rocker, peut-être un peu ringard, mais que je continue à aimer, comme Uriah Heep. Il trouve ça très bon aussi. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, il y a un absolu de la musique indépassable. J'ai beau tout écouter, j'arrive pas à en trouver l'équivalent. C'est l'Agnus Dei de la messe en si de Bach, chanté par Alfred Deller. Très précisément.
Voilà.
Voilà.
Ça c'est dit.
Ça, moi, c'est même pas la musique absolue, c'est la beauté pure. On n'en revient pas, on s'en remet pas. Pourquoi? Cet air parle du sacrifice. Donc cet air parle de la douleur et demande de la pitié à la douleur. Et en même temps, dans la façon dont Bach le fait chanter, dont Alfred Deller, plus qu'aucun autre, le chante, cette douleur absolue est de la joie. On est au-delà du positif et du négatif. Et je crois que c'est ça profondément la beauté, c'est ce qui se hisse au-delà du positif et du négatif pour atteindre ce point où la joie et la douleur ne sont qu'une seule et même chose. C'est à la fois le mysticisme et c'est à la fois l'art dans sa version la plus extrême. C'est magnifique.
Et la dimension, oui, du mysticisme, du sacré,
oui.
Ne gêne pas, si je puis dire ici, j'emploie des guillemets, parce qu'elle n'est pas liée à un dogme particulier, elle est quand même dans une question de transcendance, on est dans une question métaphysique. Là.
Oui, mais on n'a pas besoin de croire pour être bouleversé par ça, bien sûr. Bien sûr, mais c'est une transcendance, comment dirais-je, c'est une transcendance par rapport à notre attachement à nous-mêmes, à notre attachement à nos propres joies et à nos propres douleurs. Tout à coup, on en sort, et c'est cette sortie même qui est la joie. Quoi. C'est, notre Varida ne dirait pas autre chose, d'ailleurs j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, bien sûr que la musique romantique a de grandes beautés, mais j'arrive pas à y adhérer autant. Je crois, toujours revenir à Bach, toujours revenir à cette espèce de rigueur, de contention, mais bouleversante. Et ça a l'air comme ça, froid et glacé, mais Bach par Glenn Gould, c'est indépassable, d'une certaine manière.
Et puis c'est la question de la structure qui intéresse aussi, j'imagine, l'écrivain, la question de la répétition, la question de la boucle, enfin, de Bach à Steve Reich, on pourrait aussi tirer un fil très loin.
Exactement, et tout ce qui s'est fait autour de la musique répétitive, qui est encore vivante avec Philip Glass ou des choses comme ça, hérite de Bach et reste fascinant. D'ailleurs, on en a vu, en passant par Terry Riley, on en a vu des versions très intéressantes dans la musique contemporaine, allemande des années 70 avec Klaus Schulze, etc., qui étaient quand même des choses tout à fait intéressantes. Mais sinon, le rock, et en réalité, j'écris très souvent en écoutant du hard rock, du bon vieux hard rock, comme Deep Purple, comme Uriah Heep, ou comme Ten Years After, enfin des choses vintage, genuine, voilà, des choses qui pulsent parce que ça.
Mais là, vous écrivez pas des haïkus avec ça?
Non. Non, mais j'écris du roman, j'écris volontiers du roman. Mais il y a aussi des choses bouleversantes. Hein. Par exemple, quand quelqu'un comme Tom Waits fait des albums où il reprend l'esthétique de Kurt Weill, voilà, ça c'est des choses passionnantes et sur lesquelles je peux écrire parce que en écoutant Tom Waits, je me dis c'est ça aussi qu'il faut que je fasse. Hein. Cette espèce de goût à la fois baroque, incongru, bizarre, je suis très porté vers ça. Ou dans une autre version beaucoup plus soft, mais l'étrangeté lyrique qui ne ressemble à rien d'autre de ce que fait Robert Wyatt, par exemple. Voilà, ça, ce sont de vrais créateurs, de vrais qui sont même au-delà du rock, qui sont vraiment dans la musique pure, en fait.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le jeudi soir à la musique avec un nouvel hommage après Pierre Boulez, après David Bowie, ce soir Nicolas Sarnoncourt dont on va vous parler. Alors certes, moins connu du grand public que les deux premiers cités, mais ça nous a semblé très naturel que de parler de lui ce soir, d'autant qu'un nouvel enregistrement de la 4e et 5e symphonie de Beethoven qu'il dirige viennent de paraître chez Sony Classical. Mais avant de parler de lui, on écoute tout de suite un premier extrait choisi par Emmanuel Dupuis de La Passion selon saint Matthieu. C'est un enregistrement de 2000. Thank you.
Jesus hat die Hand uns zu fassen ausgespannt. Uns zu fassen ausgespannt. Kommt, 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 in Jesu Armen sucht Erlösung. Mit ihr Armen sucht in Jesu Sucht in Jesu Armen. Liebet, liebet, sterbet, rufet hier. Liebet, liebet, sterbet.
Nous reviendrons peut-être sur ce Saint-Matthieu, de façon sur Bach, chanté ici par Bernard Darfink, mais peut-être avant de parler des disques et de ce qu'on va entendre, un regard peut-être plus général sur la place de Nicolas Sarnoncourt dans le paysage musical, on va dire, de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui n'est pas tout à fait rien. Emmanuel Dupuis, vous commencez ?
Oui, vous savez, c'est assez simple. Je crois qu'avec la mort d'Arnoncourt, quelques semaines après celle de Pierre Boulez, je crois que le XXe siècle musical s'est achevé. Parce que c'était vraiment les deux grandes figures intellectuelles qui ont dominé toute la seconde moitié du XXe siècle. Alors, on aurait peut-être tendance un peu rapidement à les opposer, l'ancien, le moderne. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que tous les deux étaient des représentants de notre modernité. Tous les deux ont été, dans leur jeunesse, en rupture avec l'institution. Arnoncourt en rupture avec l'institution symphonique, en rupture avec la tradition d'interprétation romantique. Boulez, évidemment, aussi a été en rupture, ça, inutile de développer. Et tous les deux avaient un sens très profond de l'histoire et de la culture musicale, et ils en étaient les garants d'une certaine manière. Et la seule chose qui les différenciait, c'est que Boulez était un éternel optimiste. Il était persuadé que la musique nouvelle, notamment la musique atonale, finirait par triompher. Enfin, il en était persuadé surtout dans sa jeunesse, parce que je pense que plus il avançait en âge et plus il doutait, même s'il ne l'a jamais admis. Et Arnoncourt, lui, au contraire, était quelqu'un d'extrêmement, avait porté sur le monde un regard assez désabusé, assez pessimiste. Et lui, il constatait le divorce entre la musique contemporaine et le monde et le public. Et du coup, c'est ce qui expliquait, selon lui, le fait que aujourd'hui, on se tourne davantage vers le passé, et notamment vers les musiques anciennes. Voilà, donc, inutile de dire qu'avec la disparition de ces deux géants, alors c'est vrai qu'on a un petit peu moins parlé en France de la mort d'Arnoncourt, mais pour moi c'est aussi important que celle de Boulez, et avec la disparition de ces deux géants, eh bien c'est un grand vide qui se crée, parce qu'on ne voit pas aujourd'hui quelles sont les personnalités à la fois musicales et intellectuelles d'une telle envergure qui peuvent les remplacer.
Oui, parce qu'on y reviendra aussi, on pourra en parler maintenant. Nicolas Sarnoncourt, il a aussi beaucoup écrit sur la musique, des livres extrêmement importants. C'est une pensée, c'est une réflexion, c'est une recherche tout au long de ce parcours, Emmanuel Giuliani.
Son départ, en plus, a été extrêmement émouvant. Mmh. Il a, parce que ses forces physiques l'abandonnaient, il a donc signifié par une lettre à la fois aux musiciens et au public que voilà, il se retirait de la scène.
Ça, c'était au mois de décembre,
qu'il le... c'est ça, voilà, qu'il les remerciait, voilà, de toute cette aventure. Et Dieu sait que ça n'a pas toujours été facile, comme l'a dit Emmanuel, avec les institutions. Il a été donc,
avec les orchestres.
En rupture de banc de la grande tradition symphonique viennoise. Il était violoncelliste au départ et voilà, il a, en fondant aussi son propre ensemble, voilà, était en marge avant, après, de retourner de manière houleuse et puis plus apaisée aussi diriger ses grandes institutions. Ce qui est très remarquable quand on se replonge un peu dans la carrière immense d'Arnoncourt, c'est cette liberté très 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 intense qui, à la fois, vous l'avez bien dit, une pensée extrêmement structurée, un travail sur les origines, sur les sources, mais toujours pour dire que certes, il faut connaître le dogme, il faut connaître l'histoire, il faut connaître la vérité ou tous les cas l'approcher le plus possible, mais pour en faire après de la vie, de la liberté, de la nouveauté, se tromper et faire autre chose, reprendre les mêmes œuvres avec d'autres formations, faire travailler des jeunes générations baroques à l'époque où il l'a été avec les Léonard et autres, mais aussi pour d'autres programmes, faire appel à des grandes stars de l'opéra, ne pas tourner le dos à des choses qui pourraient sembler contradictoires. Parce que quand on les englobe dans un grand geste musical et une grande pensée, eh bien ça marche aussi. Et ce qui compte avant tout, c'est une communication intelligente avec le public. Et ça, c'est vrai que rares sont les musiciens qui les interprètent, en tous les cas, qui peuvent se permettre comme ça d'ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres et de ne pas avoir peur des courants d'air parce que justement, ils sont animés de cette immense énergie et de cette volonté d'aller parfois sur des terres où on ne les attend pas. Il a gravé une Carmen, une Aïda, pas forcément toujours d'ailleurs avec les mêmes bonheurs, mais il y allait, et puis tant pis, ça passe ou ça casse, mais on y va parce qu'on n'a qu'une vie, que la musique est une, et qu'on y croit, et que l'on se lance. Donc c'est ça qui est aussi très touchant avec Arnoncourt, c'est que ce n'est pas un monument dont qu'on tourne autour avec respect en disant de toute façon, tout ce qu'il a fait est admirable, on ne peut pas, on doit en parler comme d'un bloc. Justement, ce n'était pas un bloc.
Non, justement, effectivement, il n'y avait rien de monolithique, ni dans sa pensée, ni dans sa pratique musicale. C'est quelqu'un qui était toujours dans le questionnement. Questionnement de l'histoire, comme je l'ai dit, questionnement des œuvres, questionnement du répertoire qu'il n'a cessé d'élargir. Effectivement, vous avez parlé d'Aïda, il y a eu Carmen, il y a eu aussi Berg, Bartok, il y a même eu Porgy and Bess de Gershwin qui l'a enregistré. Enfin voilà, ça dépasse très très largement le cadre de la musique baroque. Et puis moi, je pense que ce qui résume le mieux peut-être la pratique de Nicolas Sardancourt, c'est la notion de dialogue. Pour lui, tout devait dialoguer. L'interprète devait dialoguer avec l'œuvre, les musiciens devaient dialoguer entre eux, le chef devait dialoguer avec les musiciens, et Dieu sait qu'en répétition, il parlait beaucoup aux musiciens, avec parfois des images très, 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 très signifiantes. Et voilà, c'était de cette façon d'interroger le texte que pouvait naître une interprétation authentique. Parce que sinon, la notion d'authenticité, Arnoncourt, il le disait, il l'a dit clairement, la notion d'authenticité n'avait aucun sens. Pour lui, la seule authenticité qui valait, c'était l'authenticité de l'interprète. C'est pas le texte en lui-même qui compte, c'est ce qu'il y a derrière les notes, en fait.
Avant d'écouter un extrait de son dernier disque, du coup, ces symphonies de Beethoven dont il avait déjà enregistré une intégrale. On parlait d'intégrale tout à l'heure dans la revue de presse. Il y en a une autre qui est importante dans son parcours, c'est l'intégrale des cantates de Bach avec Gustav Leonhardt. Un regard sur cette... vous l'avez dit, c'est pas monolithique, on n'est pas obligé de tout aimer. Quelle regard vous aviez sur ce travail, cette intégrale des cantates de Bach, Emmanuel Giuliani?
Un peu partagé, sans doute aussi, sans doute aussi parce que ce que relevait très bien Antoine dans la revue de presse tout à l'heure à propos des intégrales, surtout quand on s'attaque à un monument et quantitatif et qualitatif
comme les cantates de Bach,
c'est qu'on n'a pas toujours forcément les meilleurs chanteurs, l'approche peut changer, on peut être formidable dans le chœur d'entrée et un petit peu plus plat, je mets beaucoup de guillemets, dans les chorales, et puis au contraire, avoir un élan extraordinaire dans le dialogue entre la voix et les instruments solistes, ou parfois c'est l'instrument soliste qui a la mélodie et la voix qui a le soutien, comme si souvent dans Bach, ça marche très bien. Le dialogue dont parlait Emmanuel fonctionne très bien, et puis dans une autre cantate, un peu moins bien. Voilà, mais justement, c'est ça, c'est, je crois, cette vie, ces sources qui jaillissent en permanence, qui font que même dans ce qu'on aime un peu moins, et moi ça a été mon cas, on va en parler tout à l'heure dans ces symphonies de Beethoven, ça reste quand même intéressant et ça vous parle de manière différente, mais ça vous parle.
Alors on y va tout de suite justement, parce que vous avez choisi, Emmanuel Dujany, un passage très précis de ce dernier disque de Nicolas Harnoncourt, qui va nous faire passer du troisième au quatrième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. Va se poursuivre sans nous à cette cinquième symphonie, mais il reste peu de temps, on voudrait encore passer à un autre extrême et dire quelques mots quand même. Il repartait sur une intégrale Beethoven, Emmanuel Dupuis, Nicolas Harnoncourt.
Oui, il repartait sur une nouvelle intégrale Beethoven, mais cette fois avec les instruments anciens du Concertus Musicus, l'ensemble qu'il avait fondé à Vienne au début des années 1950, alors que sa précédente intégrale était sur instruments modernes avec le Chamber Orchestra of Europe. Et alors évidemment, les instruments anciens apportent des couleurs différentes. Ils apportent aussi leurs limites, On l'entend souvent, des limites en termes de justesse, de phrasé. Et ces limites, on les entend d'autant plus que Arnaud Court ne les ménage pas, parce qu'il y a, je trouve, dans cet enregistrement, il n'y a aucune concession. Quoi. Il y a une hargne, peut-être aussi une fureur de vivre, qui est magnifique quand on sait qu'il est mort quelques semaines après l'enregistrement. Et voilà, du coup, ça crée un sentiment de danger permanent quand on écoute notamment la cinquième. Alors je trouve que ça marche un petit peu moins dans la quatrième, parce que la quatrième est une œuvre plus heureuse, tout simplement, et que là, l'espèce de bonheur qui devrait traverser l'œuvre, on n'entend pas beaucoup. Mais dans la cinquième, il y a quelque chose de parfois, on est même tout le temps, on est à la limite de quelque chose, on est à la limite de la rupture, mais ça crée un sentiment de danger qui peut être embarrassant, mais en même temps fascinant et captivant.
Quelques mots, Emmanuel Giuliani, sur notre dernier disque sorti chez Sony Classical.
Oui, je partage l'avis d'Emmanuel, et c'est vrai que dans ce passage particulièrement, on retrouve aussi ce qui était une des grandes forces d'Arnaud Court, à savoir que c'était un très grand chef lyrique. Et donc, il y a du drame, il y a du théâtre, et dans ce moment de suspense incroyable qui est à la fin du troisième mouvement. C'est vraiment là le Beethoven qui va se passer. C'est des trucs qui vous fait des mauvais coups. Beethoven, il aurait été cinéaste, il aurait fait du film noir génialissime. Quoi. Il y a un côté Hitchcockien dans la manière dont cette conduite musicale de la symphonie. Et là, Arnaud Court, il y va, comme vous disiez, Emmanuel, il va à la limite de cela. Alors après, on peut trouver que le dernier mouvement est un peu à la hache, que l'harmonie y va à fond les manettes. Et ça manque peut-être un peu d'onctuosité.
Quasi martial, là.
On n'est pas du tout là-dedans.
On n'est pas du tout dans le domaine du beau et du joli.
C'est vraiment très impressionnant. Mais on n'a peut-être pas le temps. Et ça me rappelle, parce que moi, la dernière fois que je l'ai entendu, en vrai, comme disent les enfants, c'était il y a un peu plus d'un an, donc au Mozart Vore, Marc Minkowski l'avait invité, il jouait des Schubert, et il avait joué les sixièmes, la sixième et l'inachevé, et avant, il avait pris le micro et fait un petit discours. Mmh. Alors moi, je ne sais pas très bien l'allemand, donc il y avait des moments visiblement très drôles, les gens se gondolaient dans la salle, moi un peu moins, mais quand même, j'avais cru réussir à comprendre, et il insistait sur la manière dont il redécouvrait ses symphonies de Schubert, dont il était épaté par ce jeune compositeur qui, à 20 ans, avait déjà fait 6 symphonies, qui reprenait les thèmes de Rossini, qui étaient tellement en vogue à l'époque à Vienne, pour les reprendre à son compte et à la fois les perturber. Il disait, vous savez, alors moi, la recherche musicologique, j'y crois pas, la recherche, c'est en physique à la rigueur, mais en musique, ça veut rien dire. Et il refaisait en quelques mots tout le parcours d'émerveillement musical qu'il n'avait cessé de faire durant toute sa carrière, alors qu'il dirigeait des œuvres qu'il connaissait par cœur. Et c'était absolument formidable de le voir si drôle et si encore bourré d'appétit pour une musique qu'il avait servie si bien.
On va terminer cette séquence avec un extrait du Retour d'Ulysse de Monteverdi, mais avant cela, peut-être quelques mots, une minute, Emmanuel Dupuis, sur le lyrique et Arnaud Court.
Oh là.
Ben oui, je sais bien, mais bon, l'art de la synthèse, c'est pour maintenant.
Non, c'est absolument immense, parce que j'ai vérifié avant de venir, on dispose aujourd'hui de pas moins d'une cinquantaine d'intégrales lyriques enregistrées par Arnaud Court. Bon, je compte aussi les DVD. Et comme je le disais tout à l'heure, ça dépasse très largement le cadre de l'opéra baroque. D'ailleurs, Arnaud Court a finalement dirigé assez peu d'opéra baroque, à part Monteverdi, auquel il... Parce que Monteverdi, c'est l'alpha et l'oméga de l'opéra baroque, évidemment. De l'opéra tout court, peut-être. Monteverdi, auquel il est revenu régulièrement. Bon, il y a eu quelques tentatives chez Rameau, mais qui ne sont pas allées très loin non plus. Chez Handel aussi. Mais surtout, le cœur de son répertoire de chef lyrique, c'était Mozart. Ça, il a beaucoup dirigé et enregistré les opéras de Mozart. Là aussi, avec des partis pris contestable, contesté, mais toujours intéressant, notamment dans les opéras. Enfin, il réussissait davantage dans le registre seria que dans le registre bouffe, parce que voilà, il y avait toujours son pessimisme qui reprenait le dessus, et même l'enlèvement au sérail, qui est une turquerie légère, il en faisait un drame épouvantable.
Dernière note ce soir, dirigée par Nicolas Arnoncourt, Le Retour d'Ulysse de Monteverdi, un extrait de l'acte 2 d'un disque sorti en 71.
Io vidi, pellegrin, de proci amanti l'ardir, infermarsi, l'ardore gelar,
occhi tremanti, il cor palpitar, il nome, il nome, il nome sol d'Ulisse, quest'alma è re tra Finisse. Cado anch'io, so come rido, rido ne so perché. Rido, 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 rido ne so perché. Cado anch'io, so come rido, rido ne so perché. Rido, 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 rido ne so perché. Tutto gioisco, ringiovanisco, benieto, benieto te. Tutto gioisco, ringiovanisco, benieto, benieto te. Posto che avrem con povera sostanza i corpi vigoriti, andrem veloci, vedrai di quei feroci fieri costumi di gesti impudenti, inonesti. Dormi vive eterna e arroganza in terra, la superbia mortal tosto s'abbatte. Del cielo limpi a terra.
Voilà, pour ce trop court hommage, mais important pour nous, au chef d'orchestre Nicolas Sarnoncourt, dernier album sorti, dernier disque sorti en février dernier avec le Concertus Musicus Wien, les symphonies 4 et 5 de Beethoven, paru chez Sony Classical. Et avant de conclure tout à fait cette émission, Antoine Guillot, le jeu de la dispute, on revient sur le jeudi soir d'abord.
Vous avez gagné des invitations pour le film Le bois dont les rêves sont faits de Claire Simon. Je vous avais demandé qui avait commandé à Jean-Charles Alphand l'aménagement du bois de Vincennes, c'était naturellement Napoléon III.
Cinéma, toujours, on gagne des places ce soir pour le film Voici le temps des assassins de Julien Duvivier, qui est ressorti en salle dans une version restaurée.
Où se situe le restaurant tenu par Jean Gabin dans le film ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Emmanuel Giuliani, Emmanuel Dupuis, Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Desmonts, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Philippe Chevillier et Daniel Martin. À notre sommaire, Daddy Love de Joyce Carol Oates. Il y a Mieux à vivre de Bernard Markowitz. Nous évoquerons aussi plus rapidement Souviens-toi de moi comme ça de Brett Anthony Johnston et Les gens heureux n'ont pas d'histoire d'Héloïse Lièvre. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute, les choix de l'écrivain et critique Pierre Jourde, invité de la dispute cette semaine. Il y aura un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, Laure Adler, ce sera à 22h15 pour Hors Champ. Et avant cela, le journal de la rédaction.